vous allez suivre une conférence de l'Agora des Savoirs, une initiative de la ville de Montpellier en partenariat avec Divergence FM.
L'interrogation de l'être humain,
la création d'univers,
des gens qui ont écrit, qui ont pensé avant nous, qui ont perçu la réalité autrement.
Du 3 novembre au 8 juin, les mercredis à 20h30, salle Rabelais, la ville de Montpellier propose une trentaine de conférences destinées au grand public.
Que voulez-vous, madame? Pour vous, nous avons le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Divergence FM diffuse les conférences en direct sur le 93.9.
Avec quoi est-ce que nous pouvons nous connaître, sinon avec notre propre connaissance?
Ce mercredi 4 mai à 20h30, la psychanalyse a-t-elle encore quelque chose à nous dire? Notre temps est dominé par le discours de la science. L'homme est devenu un objet d'étude comme un autre. Dans ce meilleur des mondes, les notions de liberté et de responsabilité sont des références obsolètes. La découverte freudienne, qui a restauré les droits du sujet humain sous les grimaces de la névrose et de la psychose, reste le seul espace où il soit encore possible de mettre en échec l'obscurantisme scientiste. C'est le point de vue qu'exposera Henri Reflo, professeur émérite à l'université Paul Valéry et psychanalyste.
Oui, dans le titre qui a été choisi par Régis Penalva ce soir, la psychanalyse a-t-elle encore quelque chose à nous dire? Je pense que le mot le plus important, c'est le « encore », qui implique un doute. Hein, c'est un peu comme si on avait demandé à un ingénieur de la SNCF « la machine à vapeur a-t-elle encore un avenir ?» Et je pense que ce titre, en effet, est bienvenu parce qu'on peut s'interroger, en effet, de se demander si aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, la psychanalyse a encore quelque chose à nous dire. Alors, si j'avais dû prendre la parole à l'époque où j'étais étudiant, dans les années 60-70, j'aurais tenu un discours complètement différent de celui de ce soir. Parce que dans ces années-là, la psychanalyse était la discipline impériale qui dominait l'ensemble du champ des sciences humaines. Dans sa conférence inaugurale au Collège de France, Roland Barthes avait protesté justement en disant « La psychanalyse aujourd'hui joue le rôle que jouait la théologie au Moyen-Âge ». La psychanalyse avait fait passer sous ses fourches codines la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, la linguistique. Freud était vraiment la figure emblématique de toutes les sciences humaines. Et puis, il s'est produit un phénomène qui est intervenu, nous pourrons peut-être en parler, un phénomène qui peut-être n'est pas... Je pense quand même qu'il est sensible, un phénomène qui a été un phénomène d'un grand renversement, d'un grand retournement, qui est intervenu, je pense, au milieu des années 80. Au milieu de la décennie des années 80, Jacques Lacan meurt en 81. Il se tient à Monaco en 83 un grand colloque sur l'autisme très important. Et ces deux dates-là, 81-83, marquent pour moi la fin du rayonnement de la psychanalyse dans la culture, parce que à cette époque-là, et pour des raisons sur lesquelles je ne m'arrêterai pas parce que je ne les connais pas bien, d'autres disciplines vont prendre le relais, notamment les disciplines des sciences qu'on appelle dures, de la biologie, de la médecine dite scientifique entre guillemets. Et puis des pratiques venues des États-Unis, dont je vais dire un mot dans un instant, le cognitivisme et sa petite sœur, le comportementalisme, ou son petit frère, le comportementalisme, sont venus remplacer l'approche analytique. Et la psychanalyse, à ce moment-là, a été, on peut le dire, elle a été en déclin. et elle a maintenu, bien sûr, ses principes, mais s'il y avait un mois, il y a un mois, le 2 avril, c'était la journée mondiale de l'autisme, et sur toutes les télévisions et dans tous les journaux, ce qui est apparu, c'était l'autisme est un trouble du comportement d'origine neurologique ou génétique. Neurologique, génétique, comme on dit chez Molière, rôti bouilli, même chose. Et dans les émissions qu'on pouvait voir sur France 5 ce jour-là, eh bien, des généticiens étaient là en disant, c'est une phrase qui est revenue plusieurs fois, l'autisme est probablement une maladie d'origine génétique avec des gènes, des chaînes de gènes multiples. Voilà, on est dans le probablement, on est dans une indécision, une imprécision qui circule depuis une quinzaine d'années, et les choses en sont restées au même point jusqu'à ce que le président du comité d'éthique de l'INSERM, Jean-Claude Ameisen, ait envoyé une note que vous trouverez sur Internet à tous les directeurs de laboratoire de l'INSERM pour leur demander de ne plus publier des promesses de résultats, mais simplement des résultats. Et depuis, il y a eu beaucoup moins de publications. Voilà. Voilà. Alors, on est là dans une forme de pensée considérablement différente de ce que la psychanalyse avait introduit donc dans les années 60. Alors, de ce point de vue-là, pour essayer de préciser un tout petit peu comment s'est opéré ce retournement, ce renversement, autrement qu'en termes de date, je voudrais reprendre une idée qui m'a été chère et que j'avais découverte avant de m'occuper de psychanalyse, à l'époque où je m'occupais de littérature et d'histoire médiévale. J'avais été amené un jour, on m'avait demandé d'essayer de retracer une histoire de l'université. Et donc, en tant que médiéviste, j'avais repris l'histoire de l'université à l'époque où elle est née, c'est-à-dire au Moyen-Âge, aux environs de l'an 1000. Alors, en l'an 1000, il n'y a pas d'université. Hein. L'université en tant que telle sera bien postérieure, mais c'est en l'an 1000 que commence à apparaître un type d'enseignement qui plus tard deviendra l'enseignement universitaire. Et ce type d'enseignement, il sera distribué, si on peut dire, par des clercs qui recevront, qu'on appelle l'écolâtre, dans l'évêché, l'évêque donne à un clerc un peu plus instruit que les autres la charge de former les autres clercs et les jeunes clercs qui arrivent. Et cette autorisation d'enseigner s'appelle la licentia locandi, ça deviendra notre licence. Et c'est le premier temps, c'est le premier âge de la recherche intellectuelle et de la transmission intellectuelle qui se joue à ce moment-là. Et s'ouvre à ce moment-là un premier âge, je dirais, de l'université avant l'université. Et ce qui se joue avec ces premiers clercs, qui ont été vulgarisés, je dirais, par le film Le nom de la rose, tiré du roman d'Umberto Eco, c'est que ces premiers clercs vont découvrir les grands textes de l'Antiquité après ce qui avait été la nuit totale des années qui ont précédé l'an 1000, où les vagues d'invasion avaient littéralement laminé l'Europe. Et quand l'Europe surgit de cette période d'obscurité, elle surgit avec ces clercs qui ont tout à comprendre. Et il va y avoir un premier temps de la pensée qui sera le temps pour comprendre. C'est-à-dire que les hommes de cette époque, il va durer longtemps. Je pense qu'elle va durer jusqu'au XVIIe siècle. Jusqu'au XVIIe siècle, ce qui se donne aux hommes du Moyen-Âge, donc, mais en faisant rentrer la Renaissance dans le Moyen-Âge, c'est que la nature, aussi bien que l'homme lui-même, présente une série de questions et qu'il faut éclairer ces questions. Et donc, tout le travail de la pensée du Moyen-Âge, tout le travail de la pensée du Moyen-Âge et de la Renaissance sera d'essayer d'éclairer, de comprendre le monde. Il y a là un premier temps qui est le temps fondamental de la culture de l'Occident moderne, j'entends. Ce premier temps sera suivi par un second temps, dont on saisit un peu la bascule à la fin du XVIIe, au début du XVIIIe siècle, et qui sera marqué par ce qu'on appelle les Lumières et par l'entreprise de l'encyclopédie. C'est que, autant pour comprendre, les encyclopédistes vont considérer que le savoir est constitué. Que désormais, après ces siècles de compréhension, le savoir est constitué et qu'on peut rassembler le savoir dans une vaste encyclopédie qui va être non plus le temps pour comprendre le monde, mais pour l'expliquer. Le projet des encyclopédistes, c'est pas de comprendre. Ce n'est plus de comprendre. Mais c'est de donner à la communauté toutes les clés d'explication du monde. Et ces lumières vont porter toute la pensée du XVIIIe, de la Révolution française bien entendu, et du XIXe, très largement du XIXe. Très largement du XIXe, jusqu'à ce que s'opère à une date qu'il faudrait préciser, qui n'est pas arrivée dans tous les pays en même temps. C'est qu'après le temps pour comprendre et le temps pour expliquer, va se mettre en place un troisième temps de la culture, et c'est le temps où nous sommes aujourd'hui, et c'est le temps pour répondre. C'est-à-dire qu'on ne demande plus aux gens de comprendre des phénomènes, on ne leur demande même plus de les expliquer, on leur demande des solutions. À chaque problème doit être apporté immédiatement, instantanément, une réponse. Et ça, c'est une pratique qui a été initié en Amérique du Nord et qui va donner les disciplines qui vont remplacer la psychanalyse. Car en Amérique du Nord, la psychanalyse aujourd'hui est devenue à peu près inexistante aux États-Unis et au Canada, alors qu'elle est extrêmement florissante en Amérique centrale, en Amérique du Sud, beaucoup plus qu'en Europe, beaucoup plus qu'en Europe. La psychanalyse est en pleine effervescence, est en plein bouillonnement, est en pleine jeunesse dans les pays d'Amérique du Sud, Argentine, Brésil, etc. Voilà, donc ce retournement dont je parlais et que je situais dans les années 80-85, c'est celui où s'installe un troisième temps de la pensée, et où dans les universités d'ailleurs sont mis en place des filières qu'on appelle professionnel, ou en liaison avec la demande du marché, l'université est chargée de trouver les réponses que le marché appelle. Dans le champ de la psychologie, de la psyché et des problèmes, disons des troubles mentaux, Ce temps pour répondre sera incarné dans deux disciplines qui sont conjointes, qui sont le cognitivisme et le comportementalisme. Et aujourd'hui, en France, ces deux disciplines sont devenues les disciplines reines, c'est-à-dire les disciplines qui dominent à peu près la totalité des services hospitaliers et qui dominent la plupart, la quasi-totalité, je dirais, des départements de psychologie dans toute la France. Il y a très peu de départements de psychologie où la psychanalyse ait pu survivre à minima. J'en connais deux ou trois, peu importe lesquels. Voilà. Et ce qui domine aujourd'hui, ce sont ces méthodes comportementalistes que vous trouverez dans les journaux et dans les médias de télévision, sous le nom de méthode ABA pour l'autisme. Je vais en parler dans un instant. Voilà. Alors, le jour de la journée mondiale de l'autisme, donc le 2 avril, j'écoutais la télévision le matin, une émission de France 2, où l'acteur Francis Perrin, qui est un petit garçon autiste, défendait ses méthodes comportementalistes, qui, dit-il, avait sauvé son gamin. Et je dirais que c'est vrai, hein. Il faut bien voir ce qui se passe sur ces méthodes-là et ce qu'elles apportent. Et il ne s'agit pas ni de nier, ni de tourner en dérision ces méthodes-là. Hein. Et il disait, la France, de ce point de vue-là, a 40 ans de retard sur les États-Unis et le Canada. Non, la France, ça passe 40 ans de retard sur les États-Unis et le Canada. La France a 110 ans de retard sur les États-Unis et le Canada. Parce que le comportementalisme aux États-Unis, il est né dans les premières années du siècle passé. Donc, il y a 110 ans à peu près. Hein? Il est né avec un homme, qui est une référence, hein, et qui s'appelle Watson, qui était un spécialiste de la psychologie animale et qui a introduit à l'université Johns Hopkins de Baltimore le behaviorisme. Le behaviorisme qui est la discipline reine aux États-Unis. Mais ça a 110 ans, ça n'a pas 40 ans. Or, Watson, en introduisant le behaviorisme, en fait, ça il l'ignorait sans doute, bien qu'il soit spécialiste de la psychologie animale, mais en fait, ses origines, à lui, c'est en France qu'elles existaient. Elles remontaient à Descartes et elles remontaient à une sorte de lointain descendant de Descartes qui s'appelait Onfray de la Mettrie et qui avait introduit la théorie de l'homme-machine. Alors Descartes, lui, n'introduit pas la théorie de l'homme-machine, bien entendu. Il a introduit la théorie des animaux-machines. C'est-à-dire que ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est que l'animal est une machine qui fonctionne sous forme de réaction, d'excitation-réaction, et l'animal réagit simplement, tandis que l'homme, lui, a une âme. Hein? Le pas qui sera franchi un siècle plus tard par Onfray de la Mettrie, c'est d'appliquer à l'homme la théorie cartésienne appliquée à l'animal, et donc de créer la notion d'homme-machine. Et c'est de considérer que on peut donc, que l'homme étant une machine, on peut agir sur l'homme comme on agit sur une machine. En poussant sur des boutons, en tirant, on fait fonctionner l'homme. Donc, sans le savoir, Watson reprend ce principe en disant que le ressort premier de la psychologie, c'est la réaction. Il s'agit d'obtenir chez l'homme des réactions. Et que tout le psyché, alors ça c'est le point de départ, parce que finalement, enfin, hein, Watson est contemporain de Freud. Les grandes analyses de Freud datent de la première décennie du siècle passé. Donc ces deux hommes sont contemporains, bien sûr ils ne se connaissent absolument pas, mais le principe de Watson est complètement opposé au principe de Freud, c'est-à-dire qu'il y a chez Watson une éradication de l'inconscient. Et ça va rester le leitmotiv fondamental de la pensée américaine. Il n'y a pas d'inconscient, il n'y a qu'une périphérie. Et qu'une périphérie. Et le premier exemple, parce qu'il est illustrissime, c'est le grand exemple du behaviorisme, c'est un petit gamin qui s'appelle Albert, qui a 11 mois, et que Watson, avec son assistant Rainer, vont conditionner comme on conditionne un animal. C'est-à-dire que ce gamin est doux, placide, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi, hein, et ils vont montrer au gamin un certain nombre d'objets, un ours, un objet en fourrure, etc. Et en même temps, ils vont effrayer l'enfant en tapant avec un marteau sur le rebord de son lit. Et au bout d'un certain temps, il suffit de montrer l'objet à l'enfant sans le coup de marteau, et l'enfant est effrayé. On a obtenu un conditionnement, une conduite déterminée et programmée, machinée. C'est ceci sera la base de ce qui sera à la génération suivante, avec un successeur de Watson qui s'appelle Skinner, ce sont les grands noms hein, du behaviorisme, qui introduit le concept de base du behaviorisme, et avec ça on va être ensuite à terme la méthode ABBA, hein. En anglais, mind is behavior and nothing else, c'est-à-dire l'esprit est conduite et rien d'autre. Voilà. Et quant à savoir ce qu'est l'intérieur du psychisme, Skinner donne à cet intérieur une appellation qui va rester ancrée dans la tradition américaine. Le psychisme, intériorité, est une boîte noire. Voilà. C'est une boîte noire, donc, que l'on n'a absolument pas à ouvrir, parce que de toute façon, elle est noire et elle n'est pleine que d'obscurité. Alors, ensuite, je vais, parce que je vois l'heure qui tourne, hein, et donc je vais écourter ce que j'avais à prévoir sur les successeurs de Watson et de Skinner, pour dire simplement que l'aboutissement de ces pratiques sont les méthodes appliquées aussi bien pour ce que les Américains ont appelé les TOC, c'est-à-dire, là je souris, les troubles obsessionnels compulsifs, que pour l'autisme, hein, car ce sont les mêmes pratiques qui sont appliquées aux TOC qu'à l'autisme. Bien entendu, les méthodes se sont humanisées. Parce qu'il y a encore dans les années 60-70, le successeur de Skinner, Lovaas, pour conditionner l'amour de l'enfant vers la mère, utilisait un système de plaque électrique. C'est-à-dire qu'on mettait l'enfant sur une plaque électrique et il y avait deux expérimentateurs. Et l'expérimentateur méchant envoyait l'électricité et l'expérimentateur gentil recevait l'enfant dans ses bras en le retirant de la plaque. Si bien que l'enfant était conditionné à aimer, en quelque sorte, l'expérimentateur gentil. Et c'est comme ça qu'on conditionnait l'amour de l'enfant pour une mère qu'il n'aimait pas au départ. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ces pratiques sauvages, mais les principes restent les mêmes. Il s'agit d'opérer une forme, alors le mot que je vais employer sera peut-être un peu dur, je suis même prêt à le retirer, hein. J'allais parler d'une forme de dressage, hein. Ce mot serait forcé. Disons plutôt que il y a une volonté de ritualiser l'enfant, hein, c'est-à-dire de lui permettre d'avoir un certain nombre de conduites apprises, hein, qu'il va pouvoir appliquer au quotidien dans l'espace social, hein, puisque le maître mot de ces pratiques, ce sera d'intégrer l'enfant, de permettre à l'enfant d'être inséré dans la vie sociale et donc d'acquérir les réflexes de la propreté, d'acquérir les réflexes qu'on puisse mener l'enfant dans les transports en commun, que les parents puissent mener l'enfant dans les magasins sans que l'enfant se roule par terre et se mette à hurler. Voilà. Et tout ceci, bien sûr, c'est la pratique comportementale qui, aujourd'hui, a remplacé la psychanalyse. Et donc, j'en viens maintenant à ce que la psychanalyse dans ce registre a encore à nous dire, si elle a encore quelque chose à nous dire. Alors, la psychanalyse, elle a sans doute encore quelque chose à nous dire en maintenant tout à fait à l'opposé des références, qui sont les références partagées, parce que ce sont nos références. Hein. Là, ce que j'ai présenté, j'allais dire, il ne faut pas y voir une caricature. Ce que je viens de présenter, c'est le miroir dans lequel nous nous regardons. Ce que je viens de présenter, c'est ce que toutes les chaînes de télévision, c'est ce que tous les magazines à grand tirage présentent. Donc, ceci, C'est le monde d'aujourd'hui, c'est le monde dans lequel nous sommes. Et la psychanalyse, par rapport à ce monde-là, la psychanalyse aujourd'hui fait un pas de côté. Elle fait un pas de côté pour maintenir la primauté du sujet. Alors, je ne voudrais pas, en introduisant ce mot de sujet, introduire un mot de jargon, de jargon analytique. Et je vais essayer de me faire comprendre. Alors, en prenant l'exemple de l'autisme, parce que c'est celui que j'ai le plus travaillé et que je connais le mieux. Qu'est-ce que l'autisme ? Alors, de la façon la plus simple qui soit. C'est un enfant, lorsqu'il s'agit d'autisme infantile, parce qu'il y a aussi l'autisme adulte, dont éventuellement nous dirons quelques mots. Mais c'est un enfant qui se maintient farouchement en dehors de toute communication. C'est-à-dire en dehors de toute communication dans trois registres, il n'y a aucune communication au niveau du regard. Donc il n'y a pas d'échange des regards. Aucune communication au niveau de la voix, il ne parle pas. Aucune communication au niveau du corps. C'est-à-dire, il se dégage violemment de l'embrassement. Il ne supporte pas les caresses, il ne supporte pas qu'on le touche. Donc, c'est un enfant qui est refermé sur lui-même comme un petit bunker. D'où son nom d'autisme, hein, puisque c'est qui vient du grec autos, qui veut dire le même sur le même, et qui montre donc un enfant complètement enfermé. Alors, l'autisme, pour les méthodes que je viens d'évoquer, c'est une maladie. Classiquement, on dit c'est une maladie du comportement, d'origine neurologique ou génétique. Les associations de parents ont obtenu un déclassement, pour des raisons que j'indiquerai, qui sont des raisons sociales, ont obtenu un déclassement, ont remplacé la notion de maladie par la notion de handicap. La psychanalyse ne parlera face à l'enfant autiste ni de maladie ni de handicap. Elle dira simplement qu'il s'agit d'une position subjective, c'est-à-dire de la position d'un enfant qui n'est pas rentré dans la relation avec l'autre, qui n'est pas rentré dans cette relation au niveau du regard, au niveau de la voix, au niveau du corps. Et elle se dira, et là je reviens à mes trois temps de la pensée, elle se dira, mais qu'est-ce qui se passe pour ce gamin ? Qu'est-ce qui se passe ? Et elle se dira, je ne comprends pas. Elle n'essayera pas de corriger. Elle ne va pas essayer de corriger pour que l'enfant rentre dans la communication. Elle se dira, mais qu'est-ce que c'est que ce gamin ? Or, ce que je prendrai comme point de départ de cette position, c'est une phrase de mère d'enfant autiste, qui est une américaine, qui s'appelle Judith Barron, qui disait dans un livre qu'elle a écrit, qui a donné comme titre au livre qu'elle a écrit sur son enfant, et j'en profite pour dire que les mères d'enfants autistes sont des femmes presque toujours d'une intelligence, d'une pénétration, d'une profondeur, d'une intuition extraordinaire. Et Judith Barron a donné dans son titre le titre suivant. Il y a un petit garçon là-dedans. Il y a un petit garçon là-dedans. C'est-à-dire que derrière ce mur d'enfermement, elle percevait qu'il y avait a boy, comme elle dit, a boy. Voilà. Et tout le travail de la psychanalyse sera d'être à l'écoute de ce petit garçon et d'essayer de voir comment le faire sortir de cette prison dont il est en même temps le captif et le gardien, parce que c'est lui qui tient les clés et c'est lui qui maintient la porte fermée. Vous le voyez, la position de la psychanalyse est complètement différente de celle du comportementalisme. Il n'y a pas un thérapeute qui est le maître de l'enfant et qui met en place des techniques, hein, pour le conduire à, hein, hein, car il ne s'agit pas d'amener l'enfant vers le thérapeute, il s'agit d'amener l'enfant à lui-même, de le révéler à lui-même. Et ça, c'est la démarche fondamentale de la psychanalyse. Alors, je vais prendre quelques exemples. Je disais, il y a refus de la communication au niveau du regard. Or, un ami qui m'a beaucoup aidé pour la préparation de mon livre me rapportait un jour qu'il était éducateur dans une institution à Nîmes, me rapportait un jour que il était avec un petit gamin d'une dizaine d'années qui dessinait des barbouillages sur sa feuille. Lorsque brusquement, et ce gamin, bien sûr, n'avait jamais regardé personne, lorsque brusquement, il saisit chez cet enfant un regard fulgurant qui balait toute la pièce instantanément. Et à ce moment-là, l'enfant se rend compte, réalise que son éducateur l'a vu. C'est-à-dire, il réalise qu'il a été vu regardant. Et à ce moment-là, il lit sur son visage une terreur indescriptible. C'est-à-dire que dans ce regard, il s'est trahi. Voilà. Avec un autre gamin, mais c'est le même éducateur, dans une autre situation, mais tout à fait analogue, l'éducateur est assis à côté de l'enfant, qui est un enfant mutique et qui n'a jamais dit un mot de sa vie. Et à ce moment-là, il entend le gamin qui grommelle entre ses dents « Mon père me fait chier. » Et ce gamin, découvrant que son éducateur l'a entendu, car là aussi il se trahit, est pris de la même terreur. Et il détourne la tête violemment, avec colère, et refuse absolument de continuer la séance. Alors, des prises de parole semblables, je dirais que chaque fois que j'en ai parlé à des soignants et tout, ils m'en ont apporté d'autres. Ils m'en ont apporté d'autres. C'est ce gamin qui, un jour, au réfectoire de la même institution de Nîmes, refuse de manger au réfectoire. Ces enfants sont des enfants qui n'ont jamais dit un mot de leur vie, hein, bien entendu, qui n'ont jamais dit un son de leur vie. Et l'éducateur exaspéré dit à l'enfant « Mange ça !» Et le gamin se retourne et lui dit « Je n'aime pas le saucisson !» Et puis, c'est un silence complet. Je terminerai par deux exemples, ou par très rapidement peut-être un troisième. C'est un adolescent. C'est un adolescent, là on est dans l'autisme adulte, avec l'exemple que je vais vous donner. Dans l'autisme adulte, c'est-à-dire le moment le plus terrible pour l'autisme, parce que lorsque un adolescent ou un jeune adulte de 18 ans est encore dans un état autistique mutique, etc., pratiquement il n'y a pas de marche, il n'y a plus de guérison, même d'amélioration possible, hein. Les choses sont complètement pétrifiées et plus rien n'est possible. Et ce jeune homme donc était dans une institution à Toulouse et il produisait le tableau clinique très douloureux que présente l'autisme lorsque l'état autistique s'est enkysté, et qui est un état qui est proche de l'arriération mentale. Et Et donc, ce garçon était en institution où il allait rester jusqu'à la fin de ses jours. Et il participait à l'équipe cuisine, parce qu'on l'avait mis là, c'est la seule chose qu'il pouvait faire. Et répétitivement, d'ailleurs, à l'équipe cuisine, il ne pratiquait qu'un seul plat, qui était la préparation de la tarte au Roquefort. Donc un jour, il y a la petite fête de l'institution qui a lieu à la fin de l'année. Et on lui dit, tu feras ta tarte au Roquefort. Donc ce garçon prépare sa tarte au Roquefort. Toute institution est là, soignants et pensionnaires sont là pour le repas donc de fin d'année. Et on lui dit d'aller chercher sa tarte au Roquefort en cuisine. C'était une personne qui, bien entendu, n'avait pas dit un seul mot, là aussi, durant toute sa vie. Il avait pratiquement 20 ans. Il est enfermé sans aucune communication avec qui que ce soit. Il va donc chercher sa tarte. Il revient à sa tarte posée sur un plat. Il se prend les pieds dans une chaise. Le plat et la tarte lui échappent. Le plat se brise en 1000 morceaux. Et à ce moment-là, il vocifère. Mais j'ai de la merde dans les mains. Voilà. Or là, on a la preuve que chez ce jeune adulte, qui était dans un état d'enfermement autistique total, absolu, et dont on peut dire que rien de l'ordre d'une sortie de l'autisme là n'est envisageable dans ces états-là. C'est la dégradation qui va inexorablement s'installer. Or, on voit que chez un garçon comme celui-là, un langage parfaitement organisé est en place. En place de toujours. Et que, sous le coup d'une émotion, la barrière qui maintenait, comme pour « je n'aime pas le saucisson », et comme pour « mon père me fait chier », c'est là on a affaire à des pré-ados. Donc, la partie est encore jouable. Mais chez le patient dont je vous parle, non, la partie n'est plus jouable. Mais pourtant, le langage est en place. Un langage qui marque, qui vient supporter un affect extrêmement important de colère. De colère que le sujet retourne contre lui-même, mais en même temps, un langage, et ça c'est un point, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait trop technique, mais un langage qu'un patient psychotique ne pourrait pas employer. Parce que l'autisme n'est pas la psychose. La psychose est une autre affection mentale très différente, mais dans laquelle il n'y a pas d'effet de métaphore. Là, il y a une métaphore. J'ai de la merde dans les mains, c'est une métaphore. Et donc, c'est un sujet, nous avons là la preuve avec ces quelques exemples, je vais en apporter encore un, parce que c'est un exemple qui m'avait infiniment ému, personnellement, quand on l'a rapporté. On a la preuve qu'on a des sujets qui ont une parfaite introduction au langage. Donc dire que l'autisme, ce sont des sujets sans langage, ça on peut dire très clairement que c'est une ânerie. C'est une ânerie et que les exemples sont innombrables qui viennent montrer que les autistes sont des sujets qui sont doués de la parole et qui ne parlent pas. Voilà la définition de l'autisme. Qui sont doués de la parole et d'une parole totale, pleine et accomplie. C'est là que la psychanalyse, je dirais, vous le voyez bien, se démarque de toute la série que j'évoquais tout à l'heure des pratiques comportementales. Alors je prends un dernier exemple. C'est un exemple qui m'a été communiqué par un médecin, Madame de Vulder, lorsque j'étais à Lille il y a 2 ans, et que j'évoquais des cas semblables, elle m'a porté celui-là, que je trouve le plus, pour moi, peut-être le plus touchant. Elle me rapporte que, en tant que médecin, donc dans une institution, elle avait pris en charge un petit garçon autiste 5 à 6 ans, qui était beau comme un ange. Souvent, les enfants autistes sont beaux comme des anges. Ça s'explique. Peut-être en parlant, nous. Mais qui était complètement amorphe et qui non seulement ne parlait pas, il n'avait jamais dit un mot de sa vie, cet enfant, comme tous ceux que je viens de vous citer, mais en plus, il n'avait pas accès à la motricité. C'est-à-dire, il ne bougeait pas, il ne marchait pas, il ne se tenait pas sur ses jambes, il était donc par terre en permanence. Et donc, le médecin se penche pour le relever, parce qu'elle avait, je dirais, à déplacer l'enfant. Et à ce moment-là, ce bambin avise dans l'oreille du médecin un morceau de coton. Et il lui dit « Oh, madame, tu as une otite, cela fait très mal. » Voilà. Cette phrase est sidérante. Cette phrase est sidérante parce qu'elle montre que l'enfant autiste a tout un monde parfaitement organisé. Cet enfant sait ce que c'est qu'une otite. Il sait que ça fait mal. Et cet enfant qui ne parle pas, mais qui ne marche pas, qui est un paquet qu'il faut déplacer, à cette occasion, il renverse la relation. C'est lui qui prend en charge son thérapeute en lui disant « ça fait très mal ». C'est lui qui se met en position de dire « ah ben c'est... tu n'as pas de chance ». Il n'y a pas de chance. Et là, on a la preuve, avec ce petit gamin, on a la preuve que la communication est parfaitement établie, que l'enfant autiste est absolument pas ni dans la maladie ni dans le handicap, qu'il n'est pas du tout en position inférieure. Je veux dire que ça n'a rien à voir avec le panneau des psychoses qui vont de la paranoïa à la schizophrénie. Jamais un enfant schizophrène n'aura ce type de réaction et de réponse par rapport aux soignants. Simplement, il y a cette énigme d'un enfant qui est totalement en position de retrait. Alors, quelle est la pratique de la psychanalyse par rapport à ce sujet ? Par rapport à ce sujet, par rapport au sujet humain, et qu'est-ce que la psychanalyse peut encore nous dire dans la relation à l'autre ? Du point de vue de l'autisme, j'apporterai là deux exemples, un positif, l'autre négatif, parce qu'il ne faut pas croire que la psychanalyse soit une discipline angélique. Le point positif, c'est un petit bambin et qui a été suivi par une psychanalyste qui est une amie personnelle de Saint-Quentin, qui s'appelle Françoise Keller, et qui avait reçu un jour une maman qui lui amenait son enfant mutique, complètement renfermé. Et on lui avait conseillé d'aller trouver donc cette psychanalyste. Et donc cette psychanalyste reçut ce gamin, et le premier jour, le gamin était arrivé avec un album de Tintin sous le bras. Il avait refusé de s'asseoir comme le psychanalyste lui proposait. Il était la semaine dans un coin du cabinet, et pendant toute la séance, il avait feuilleté son livre de Tintin. Et la séance était terminée comme ça, sans un mot. À la séance suivante, même chose. Il ne se passe rien. Enfin, il ne se passe rien. Si, il se passe que le gamin feuillette son album et que la psychanalyste ne bouge pas. Et puis, les jours passent, les semaines passent. De temps en temps, la maman demandait à un thérapeute... Alors comment ça se passe ? Il a répondu, ça se passe bien, ça avance. Ça avance. Et il ne se passait rien. Jusqu'au jour où ce gamin, intrigué par cet adulte qui ne lui demandait rien, qui ne lui parlait pas, qui ne le regardait même pas, se mit, lui, à engager la relation. Et François Sköller m'a dit, là, les progrès ont été fulgurants. Voilà. Donc, alors, je suis pas en train de vous dire que ce genre de choses, ça marche à tous les coups. Hein, parce que il faut avoir des nerfs d'acier pour rester pendant une année face à un enfant qui ne vous regarde pas, qui ne vous parle pas, qui ne s'occupe pas de vous, hein, et de revoir la mère de temps en temps et dire ça avance bien. Voilà. Je prendrai un autre exemple qui est tout à fait le contre-exemple, qui est tout à fait le contre-exemple et qui va montrer là aussi les limites de la psychanalyse. C'est une petite fille qui avait été prise en charge dans une institution, et c'est une petite fille qui était ravissante. Et l'institution était en quelque sorte, je dirais, tombée amoureuse de cette petite autiste, parce qu'elle était ravissante, qu'elle était vive, qu'elle était, qu'elle avait un charme fou. Et donc, cet enfant a fait des progrès rapides. Hein ? Elle a fait des progrès rapides et elle est devenue en quelque sorte un peu l'emblème de l'institution et l'emblème de la thérapie de l'institution et des succès thérapeutiques de l'institution. Lorsque tel ou tel soignant partait en vacances, dès son retour, il demandait comment elle allait, quels étaient les progrès qu'elle avait fait, et voilà. Et cet enfant a fait des progrès, en effet, tout à fait spectaculaires, jusqu'au jour où le tableau s'est brouillé. Les progrès se sont interrompus et où la jeune fille a régressé. C'est-à-dire qu'elle avait répondu à la volonté de guérison de l'institution, mais elle avait répondu, on est là dans le cas de figure complètement opposé à celui du petit gamin qui lisait Tintin. Elle a répondu au désir de l'institution et ce désir l'a menée plus loin que là où elle pouvait aller et plus vite que le rythme qu'elle pouvait suivre. Et à un moment, l'entreprise thérapeutique a été un échec. Donc, cette prise dans le désir de l'autre, c'est bien entendu la base de la psychanalyse, car vous le savez, vous ne le savez pas, mais le ressort de la psychanalyse, c'est ce que Freud a identifié, qui l'a surpris d'ailleurs la première fois où il l'a vu, c'est ce qu'on appelle le transfert. C'est-à-dire où se noue entre le thérapeute et l'enfant une relation où le désir du thérapeute doit se situer d'une façon, je dirais, opportune face au désir de l'enfant. Dans le cas du gamin qui lisait Tintin, on voit très bien quel a été le désir du psychanalyste. C'est un désir qui a été de respecter l'enfant. De respecter l'enfant et de ne pas faiblir sur ce respect-là. Dans le cas de la petite gamine de Nîmes, donc, que je viens d'évoquer, le désir de l'équipe a basculé dans un autre registre qui était la jouissance. C'est-à-dire que cet enfant était devenu l'objet de l'institution. L'objet de la jouissance, j'allais dire, des soignants. Et c'est ce basculement du désir à la jouissance qui a mené à l'échec thérapeutique. Alors, je terminerai sur ce point. Je regarde toujours ma montre avant de vous parler. Je terminerai en évoquant un cas qui va être un tout petit peu en marge, mais qui va peut-être nous montrer aussi, dans un registre où on l'attendrait moins, ce que la psychanalyse peut avoir à nous dire. Parce que là, dans l'exemple que je vais prendre, la psychanalyse n'est pas représentée en tant que telle. Il n'y a pas de psychanalyse dans ce qui se passe là. Mais il y a une situation analytique qui se joue en milieu médical. Il s'agit d'un cas de coma. qui a eu lieu il y a quelques années dans la ville de Rodez. Et je tiens ça du médecin qui a été en quelque sorte le personnage central de ce cas qui va suivre, là, que je vais vous présenter pour terminer. C'est une petite fille de 12 ans qui avait eu un traumatisme crânien à la suite d'une chute de cheval et qui était tombée dans un coma profond d'où elle ne sortait pas. Toutes les méthodes classiques de réanimation étaient restées sans résultat, sans succès. Lorsque une infirmière dit un jour au médecin anesthésiste qui m'a rapporté donc cette anecdote qu'elle avait eu le sentiment que, alors qu'on évoquait en présence de la petite fille dans le coma, qu'on évoquait les conséquences de son accident, les conditions de son accident, et donc cette chute de cheval, au mot cheval que la petite fille avait tressailli. Ce qui fit tilt dans la tête du médecin, qui décida, quelque chose qui peut paraître fou, surtout aujourd'hui, je ne suis pas sûr, c'est une anecdote qui a 10 ans d'âge ou 15 ans d'âge, hein, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça serait possible, mais elle décida de faire venir le cheval de l'enfant à l'hôpital. Déjà à l'époque, et pourtant nous n'étions pas à cette époque, nous n'étions pas là où nous sommes aujourd'hui, hein, mais déjà à cette époque, la direction et l'administration de l'hôpital se mit à lever les bras au ciel. Hein, faire venir un cheval et faire monter un cheval au troisième étage d'un hôpital. Mais le médecin Timbon, on amena le cheval, et quand ce cheval fut près de la gamine eut véritablement un frémissement qui marqua la sortie du coma. Alors pourquoi est-ce que dans cette histoire ça convoque la psychanalyse ? Ça convoque la psychanalyse pour deux choses. Ça convoque la psychanalyse pour dire que la notion de boîte noire que les Américains mettent au centre de leur problématique, que cette notion de boîte noire est une absurdité. Même chez une petite fille plongée dans le coma, car il y a une analogie entre l'autisme et cette petite fille. Les autistes, eux, sont enfermés volontairement dans un non-lieu, dans un ailleurs, où il n'y a pas de communication avec l'autre. Et ils ne sortent de cet ailleurs, ils n'établissent la communication que à la faveur d'un incident particulier. Cet incident particulier, dans la philosophie grecque, elle a un nom. Je veux l'employer parce que je pense que c'est important aussi pour comprendre ce qui s'est passé là. Dans la philosophie grecque, on appelle ça le kairos. Le kairos, c'est l'occasion. C'est l'occasion dans la pensée grecque. C'est-à-dire, c'est l'occasion que le bon conducteur de char sait saisir pour doubler l'adversaire. À un moment donné, dans la course de char, dans le virage, il y a un moment où il y a une fenêtre où l'on peut passer. Et le bon conducteur, c'est celui qui sait saisir cette fenêtre. Cette fenêtre, c'est le kairos. Et là, ce que l'on voit dans les cas d'autisme que j'ai cités, c'est qu'il y a un kairos, c'est que on saisit comment ce kairos est arrivé. Or là, dans le cas qui s'est joué à Rodez, il y a eu une occasion, il y a eu un kairos qui a été suscité, qui a été induit par l'équipe soignante. Alors, comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, c'est pas simple. Il ne faut pas croire que... Il suffirait, quand un sujet est plongé dans le coma, d'interroger la famille pour savoir quelles étaient les envies particulières du patient et de dire « bon, il travaillait à la campagne, on va lui mettre des tomates sur la table de nuit ». Ça ne va pas tirer personne du coma. Mais ce qui s'est joué là, c'est que cette petite fille a été sollicitée sur sa boîte noire. Elle a été suscitée sur sa boîte noire, c'est-à-dire sur une forme de vigilance qui se situe en amont de l'inconscient, qui se situe au moment où le sujet humain se construit sur les premières sensations de la vie. Ces premières sensations, ce sont des odeurs, ce sont des sonorités. Cet ensemble-là, c'est ce qu'il y a de plus archaïque dans le sujet. Et ce qui a été, ce sont ces sensations-là que le cheval est venu en quelque sorte incarner. Mais cela n'aurait sans doute pas suffi. Car ce qui s'est joué ce jour-là aussi, c'est qu'il a fallu que le médecin anesthésiste et l'équipe soignante tout entière soient animés d'un extraordinaire désir pour avoir pu forcer les résistances de l'administration et de la direction, pour s'être battu, pour avoir dit « nous ferons monter ce cheval ». Et que cette gamine, elle a été prise, littéralement prise et portée, là on n'est plus dans l'autisme, hein, elle a été littéralement prise et portée par le désir et la volonté de l'équipe soignante. Et c'est sans aucun doute la conjonction de cette strate archaïque du sujet, représentée par les sensations, par les premières sensations, et dans la relation de transfert à l'équipe soignante, de transfert, on pourrait dire, dans le cas présent, de contre-transfert, car c'est le contre-transfert qui est venu prendre la patiente à ce moment-là, hein, que c'est ce nouage-là qui est venu tirer cet enfant du coma. Et ça, je dirais, ça fait partie de ces choses que la psychanalyse a encore à nous dire aujourd'hui. Alors, je vais terminer dans une conclusion qui sera très rapide, que je laisserai ouverte, si vous voulez, pour la discussion. C'est que vous voyez comment, quand je disais la psychanalyse, elle parie sur le sujet. Elle parie pas sur le moi, elle parie pas sur le corps, elle parie pas sur le bios. Elle se dit pas que quand on aura trouvé les gènes, on va trouver la solution de l'humain. Ou que l'imagerie médicale va nous révéler le dysfonctionnement qui détient le secret de telle ou telle maladie. Hein, on a même considéré à un moment donné qu'il y avait un gène de l'homosexualité. Je veux dire, c'est tellement ahurissant que on répond rien à ça. Voilà. Non, elle vient chercher le sujet. Et dans tous les cas que j'ai apportés ce soir, référés à la psychanalyse, on voit que Judith Baron avait raison. Il y a un petit garçon là-dedans. Il y a un petit garçon là-dedans. Et ce qu'il faut arriver pour le soignant à saisir, c'est le kairos, c'est-à-dire le moment, l'occasion, la fenêtre qui va se présenter pour que cet enfant, on puisse l'attraper. Non pas pour le tirer, encore une fois, non pas pour le tirer vers nous. Si on le tire vers nous, il ne viendra pas. Il ne viendra pas, il va freiner des quatre fers, il ne viendra pas. Mais pour lui permettre d'advenir à lui-même. Et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire de la sortie du coma de la petite fille à Rodez. De lui permettre que le désir de l'équipe soignante lui permette d'aller à la rencontre de ce qu'elle était. Et ce qu'elle était, c'était une cavalière. C'était essentiellement une cavalière. Voilà. Alors, nous sommes aujourd'hui dans un monde où cette notion du sujet, dans tous les espaces, si vous regardez le discours politique, ce discours politique fonctionne entièrement sur l'exclusion du sujet. C'est uniquement à la surface des personnes que s'adresse le discours, en jouant uniquement dans ce jeu de... Il y a un film qui disait... plus très bien le titre du film, peu importe, c'était là aussi un directeur de maison de redressement, action-réaction. Voilà. C'est-à-dire, tout se passe à la périphérie. C'est une psychologie de la périphérie. La psychanalyse considère que la périphérie n'a pas d'importance, que la périphérie, c'est une façade, que ce qui est important, c'est de savoir derrière la façade qu'est-ce qui se cache, qui est-ce qui est en attente, qui est-ce qui est en souffrance, qui est-ce qui est en attente de révélation. De ce point de vue, dans le monde où nous sommes aujourd'hui, et qui est dominé à 80, à 95%, peut-être un peu plus, qui est dominé à 95% par cette pensée dominante qui est une pensée de la réponse. La psychanalyse, elle, maintient qu'elle ne se situe même pas au stade de l'explication. Et de ce point de vue-là, je citerai une phrase du philosophe Henri Maldinet, qui est venu plusieurs fois au département de psychanalyse, au moment de sa création. Et Maldinet disait « Il y a ceux qui expliquent avant d'avoir compris. » Non, expliquer ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'expliquer. Le seul intérêt, c'est de comprendre. Parce que lorsque l'on comprend, on a fait le pas qui permet à l'autre de poser sa question. Dans une de ses premières analyses, Freud recevait une jeune fille qui s'appelait Dora, et à un moment donné, Dora pose une question à Freud sur les relations qu'elle a avec son père. Et Freud lui dit, quand on pose une question, la réponse n'est pas loin. Et il s'en est tenu là. C'est-à-dire que laisser à celui qui pose la question le soin d'apporter lui-même la réponse à sa question. Et cette réponse-là, je pense que fondamentalement, c'est ça que la psychanalyse aujourd'hui, dans ce monde où nous sommes, je ne dirai rien parce que là je serai peut-être un peu agressif, mais dans ce monde-là, ce que la psychanalyse peut nous apporter, c'est cela. Hein, un espace de la compréhension et un espace où le sujet a à répondre de lui-même. Je vous remercie.
C'était l'Agora des savoirs.
Bien peu nombreux sont ceux d'entre eux qui seraient capables de dire de quoi il s'agit.
Des conférences ouvertes à tous.
La science est un discours.
Le mercredi à 20h30, salle Rabelais à Montpellier et en direct sur Divergence FM 93.9.
L'interrogation de l'être humain.
La création de l'univers.
Le scepticisme, l'hédonisme, le rigorisme.
Depuis 2 millions d'années, il se raconte des histoires qui n'ont absolument ni queue ni tête.
Il y a beaucoup de choses en nous.
L'Aristide de Cyrène jusqu'au mur de mai 68.
Que nous ignorons.
La philosophie n'est pas un ustensile.
Bien sûr, ces mots sont familiers au commun des mortels.
La science est un discours.
Avec quoi est-ce que nous pouvons en connaître? Sinon, avec notre propre connaissance.
L'Agora des savoirs, une initiative de la ville de Montpellier, en partenariat avec SORAMS, la Maison des sciences de l'homme de Montpellier, Direct Montpellier Plus et Divergence FM.
Vous venez d'écouter Henri Reflot. La psychanalyse a-t-elle encore quelque chose à nous dire ? Prochain rendez-vous de l'Agora des savoirs le mercredi 11 mai à 20h30, salle Rabelais ou en direct sur le 93.9 avec une conférence de Henri Atlan, enjeux éthiques, sociaux et politiques liés au développement de la biologie.